c'est vrai, la maman était un peu sous hormone, mais puis elle a des difficultés avec un adolescent ou un jeune enfant. Bon, on supporte les pratiques parentales et tout ça, parce que c'est ce qui a amené la famille à avoir un signalement. Mais on réalise que, bon, écoute, madame est sans emploi, ça cause énormément de stress. Madame avait une formation, mais il n'y a pas eu de processus de reconnaissance des acquis. Donc, il peut y avoir toutes sortes de dimensions sur lesquelles on est un organisme communautaire, on va travailler avec la famille pour vraiment essayer d'aller résoudre le problème en profondeur. Et nos familles, ben, elles sont volontaires, je veux dire, contrairement à la DPJ, n'est pas un service non volontaire, donc ça leur est présenté. Puis si elles veulent travailler avec l'organisme communautaire, ben, on continue. Et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a un beau lien de confiance, parce que ça se fait dans un respect total, un réel désir d'aider à partir des priorités beaucoup établies par la famille, tout en s'assurant que la famille ne sera pas resignalée à la DPJ. Donc, on travaille ces enjeux-là. Mais la famille avait déjà eu un enjeu avec le système. Donc, ils comprennent, ils apprécient notre approche. Et écoutez, à date, nous sommes rendus à une cinquantaine de familles. Ce sera Marie-Sylvie qui pourra en dire plus, certainement. Mais les mots de remerciement que nous recevons de ces familles, c'est incroyable. Ils nous disent, ah, vous savez, la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie, ça a été ce signalement des pays. Donc, c'est étonnant. Mais je dois vous dire qu'en général, parce que c'est un programme qui se fait en partenariat avec le CIUS du Centre-Sud de Montréal, donc ce qui est anciennement les centres de jeunesse de Montréal, l'essentiel des familles qui nous sont référées juste ici sont des familles qui ont eu un signalement retenu, traité, mais qui n'ont pas été jugés fondés nécessairement. Mais là, je rentre dans les technicalités du profil clientèle, puis Marie-Suzy a plus les mains directes dessus, alors elle pourrait vous présenter un petit peu plus ces gens-là. Donc, ils ont eu un problème, mais ils ne sont pas rentrés à fond dans la machine. Donc, il est encore temps de faire une belle prévention avec ces familles-là et de s'assurer que tout va bien, il n'y a pas d'enfants en placement, les familles sont préservées, on règle les problèmes, et puis, oups, la petite famille peut continuer son chemin de dos.
Alors, c'est avec plaisir que je vous cède la parole, Madame Marie-Suzy Casséus, gestionnaire du programme Option Protection, qui est quand même une charge assez lourde également pour toi.
Oui, effectivement, comme vient de dire Marie-Pierre, nous sommes même rendus à une soixantaine de familles, donc avec nos cinq intervenants qui travaillent d'arrache-pied pour donner du support à ces familles-là. On travaille, comme l'expliquait Mme Ulysse, en collaboration avec la DPJ de Montréal. Donc, en fait, on fait vraiment des rencontres pour que la DPJ présente les familles. Et là, on prend la relève. Donc, on prend le temps de bien connaître les familles, de créer un lien de confiance. Puis, assurément, les gens s'ouvrent. Ils s'ouvrent à nous, ils s'ouvrent aux intervenants. C'est la raison pour laquelle on arrive à travailler sous différents facteurs, différents aspects les affectent. Donc, nos intervenants travaillent de différentes façons et les rencontres à domicile, bien sûr, en s'assurant de respecter les mesures sanitaires. On fait des rencontres Zoom également. On a donc les intervenants présentent des ateliers aux parents sur la communication, sur la gestion des émotions, la gestion du stress, donc sur les bonnes méthodes d'éducation et j'en passe. On a aussi des groupes de parents donc auxquels les parents peuvent se joindre pour échanger, partager avec d'autres parents, se donner des trucs, aller recevoir des trucs. Donc, on s'assure qu'ils mettent tout ça en pratique également dans leur quotidien. Et effectivement, les parents en ressortent ravis, en ressortent outillés. Plusieurs nous disent avoir su qu'ils pouvaient faire différemment. La situation ne serait pas la même nécessairement. Ils ne seraient pas rendus à être suivis ou évalués par la DPJ. Donc, ça nous fait réellement plaisir de pouvoir offrir ce service à la communauté, ce service tant attendu et ce service qui est très, très pertinent pour notre communauté.
Ce qui est important, je vois que vous avez des interventions psychosociales à domicile, accompagnement à l'école, participation aux rencontres entre parents, aide aux devoirs, c'est quand même assez intéressant. Surtout, on sait qu'il y a des parents qui peuvent avoir des difficultés dans ce domaine.
Tout à fait. Et puis en plus, on rajoute... Vas-y, Marie-Pierre.
Alors, je vous écoute. Alors, là.
Je vais me lancer. En effet, une des raisons pour laquelle on était si enchantés de cette invitation, c'est que lorsque les familles rencontrent des difficultés, ben, elles peuvent déjà prendre le téléphone et appeler au BCHM. Puis à partir de là, ben, l'équipe d'intervention pourra voir est-ce qu'il y a lieu d'intervenir et comment est-ce qu'on peut supporter cette famille. Donc l'idée, oui, on travaille en partenariat avec la DPJ, on reçoit beaucoup de familles signalées à la DPJ, mais les familles peuvent aussi avoir des difficultés et nous appeler directement. Et un volet où on va travailler avec les systèmes, avec les écoles, avec les CLSC pour leur dire, écoutez, si la situation, vous rencontrez des difficultés ou vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes et que la situation n'est pas totalement dégradée ou vous devez signaler à la DPJ, ben, vous pouvez, dans l'intervalle, appeler le BCHM. Parfois, on peut rentrer rapidement, faire une intervention avec la famille, travailler et ça évitera un signalement à la DPJ. Donc, on est là. On est une ressource pour la communauté.
Vraiment, ce qui a été récent aussi dans le programme, c'est que le BCHM travaille en continuité. C'est que on n'a pas une limite de temps, on n'a pas une obligation de durée. La famille, elle est accompagnée. On prend le temps de l'accompagner pour le temps qu'il faut. Et des fois, on diminue l'intensité des interventions, effacer les rencontres parce qu'on voit que ça va mieux dans la famille. Mais par contre, la famille aussi peut réaliser, bon, on travaillait surtout avec ce jeune, mais il y a un autre jeune qui commence à présenter des défis. C'est la famille qui rappelle le BCHM pour nous dire, écoutez, on a besoin d'aide, on a besoin de vous. Donc, c'est ce lien de confiance qu'on cherche à garder. Parce que je pense que ces personnes qui sont accompagnées ne feraient pas nécessairement appel à la DPJ pour leur dire, écoutez, nous avons encore des défis. Donc là, c'est extrêmement important, c'est précieux pour nous de pouvoir garder ce lien de confiance et d'agir dans l'intérêt des familles.
Et moi, il y a une chose que j'aimerais souligner. L'avantage, hein, c'est que ces gens-là sont desservis dans leur propre langue et vous connaissez leurs coutumes également.
Oui, tout à fait. L'intervention est adaptée. Puis les familles se sentent en confiance. Elles se sentent beaucoup respectées à travers ce qu'elles vivent, ce qu'elles expriment. Puis elles sont très réceptives à ce que l'équipe d'intervention leur apporte. Donc, c'est un bel échange, vraiment enrichissant et plaisant.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir?
Je voudrais rajouter effectivement... Raymond, souvent nos intervenants ont à intervenir dans les situations où est-ce que le parent ne parle pas le français ou très peu le français. Donc, ça permet vraiment d'amener aussi des nuances au niveau de la compréhension des difficultés que vivent nos familles. Puis, je voulais simplement rajouter qu'également, on vous parlait de la rétroaction positive des parents, mais c'est la même chose aussi pour les intervenants de la DPJ. Donc, lorsqu'ils rencontrent nos intervenants, ils voient le travail qui est fait auprès des familles. On a un feedback très positif, même de la DPJ, qui voit évoluer ces familles-là et qui se mobiliser afin de rectifier leur situation, puis de retrouver une stabilité, parce que c'est ça, la famille est en déséquilibre pendant quelques temps, mais elle arrive, avec du support, à retrouver son équilibre.
Alors, vous avez quand même la collaboration de deux universités à Montréal et RUT.
Oui, c'est bien ça. Nous allons travailler avec l'Université de Montréal, avec les chercheurs qui ont fait des études déjà sur le dossier de la surreprésentation. Il s'agit de Chantal Lavergne et Sarah Dufour. Elles étaient aussi à la commission Laurent. On fait des recommandations à la commission Laurent. Donc, d'une part, elles sont les chercheurs de l'Université de Montréal et de l'UQAM, qui est la chaire UNESCO, avec Gina Thézé et Paul Carr. Donc, c'est au niveau de la recherche-action. Bon, pour l'Université de Montréal, c'est la recherche-évaluation. Donc, on a bien hâte de commencer justement parce que on a le groupe de chercheurs déjà en place pour commencer. Donc, on attend certainement le financement pour la recherche. Normalement, elle devrait débuter en automne. Donc, à l'automne, on devrait commencer au niveau de la recherche.
Alors, les gens qui vous écoutent actuellement, qui aimeraient avoir de l'aide de votre bureau, et comment ils vont faire pour rentrer en contact avec vous?
Ils peuvent appeler au BCHM. Donc, le téléphone, c'est le 514-725-9508 et signaler le poste 301. Donc, c'est l'une des options. Ou par courriel, option protection @bchm.ca. Donc, c'est par téléphone, c'est le 514-725-9508, excusez-moi, 514-725-9508, poste 301. Et par courriel, c'est option protection @bchm, à commercial bchm.ca.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la commission de Régine Laurent est plus qu'utile avec un ministre délégué à la santé et aux services sociaux?
On ne fait pas de politique, mais on a hâte d'entendre le rapport final, d'écouter ou de recevoir le rapport final, parce que de toute façon, ce que nous faisons rentre déjà dans le rapport préliminaire de la commission Laurent, qui parle de la collaboration avec le milieu communautaire qui est extrêmement important. Donc nous, nous étions avant-gardistes parce que notre projet, il n'a pas vu le jour. Il a commencé, mais il a été mis sur papier depuis près de 2 ans. Donc,
je ne fais pas de politique, mais je suis un bon observateur, c'est tout.
Oui, c'est bien. Donc, on est dans la lignée, dans la logique du rapport préliminaire de Mme Laurent.
Ah ben, c'est très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez un message à passer aux parents qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient quand même avoir de l'aide de votre côté. Encore une fois, prenez votre temps. Et les mots de la fin, chacun de vous, on va commencer avec toi, Ruth, et ensuite avec Madame Marie-Pierre Ulysse, et ensuite on se termine avec Marie-Suzy Casséus.
Donc, oui, Raymond, ce qu'on souhaite, c'est en fait, rappeler que le BCHM est un organisme de soutien aux familles et nos actions sont toujours en conséquence. Le BCHM accompagne les familles en répondant à des problématiques réelles et qui nous ont été amenées. Donc, c'est une préoccupation pour nous. Et les familles qui ont des défis ou qui ont des craintes du système ou qui savent déjà qu'ils auront des besoins, il ne faut pas hésiter de demander de l'aide. Et le BCHM est là pour ça. On a une équipe d'intervenants polyvalente, notre équipe est diversifiée. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau des compétences, on a des personnes compétentes pour répondre aux besoins des familles, pour accompagner les familles. Il n'y a pas, au niveau de Montréal, c'est clair que le programme s'adresse aux communautés de Montréal, mais l'impact que nous avons fait en sorte que nous sommes sollicités par des associations africaines d'autres régions qui ne sont pas de Montréal. Donc, c'est pour vous dire que le projet, l'importance et l'envergure du projet est bien réelle. Donc, on souhaite continuer, on souhaite aider les familles, on ne veut pas qu'ils se ramassent au niveau de la protection de la jeunesse, on veut éviter, on veut travailler en amont avec les familles, on veut travailler en amont avec les institutions, parce qu'il y a aussi des établissements scolaires, des enseignants qui nous appellent directement lorsqu'ils constatent des problèmes au lieu de passer par le système. Des fois, c'est bien, donc c'est au niveau de la prévention toujours. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que le BCHM est là et nos portes sont grandes ouvertes pour notre communauté.
Alors, Madame Marie-Pierre Ulysse.
Mon Dieu, Ruth, tu as si bien parlé, c'est difficile d'ajouter quelque chose. Ben, écoute, moi, ce que je dirais aux familles, c'est que lorsque les enfants vont bien, lorsque les familles vont bien,
les communautés vont bien. Donc, lorsqu'il y a des difficultés, se sentir isolé, se sentir jugé, se sentir maltraité, écoutez, n'hésitez pas. Il n'y a personne au BCHM qui va vous juger. On est là pour vous aider. Donc, prenez le téléphone et appelez. Et il peut y avoir, on n'a pas mentionné, mais il peut y avoir des familles qui sont plus profondément aux prises avec le système DPJ et qui a de la difficulté, qui trouve ça difficile, que l'intervenant ne comprend pas ce qu'il veut dire et tout ça. Alors, on peut aussi, dans ces cas-là, faire de la co-intervention. Dépendamment de où le dossier est rendu, ils ne fermeront pas nécessairement le dossier, mais on peut accompagner, essayer de faire une certaine médiation culturelle afin que le système puisse mieux comprendre la famille pour que l'expérience client soit meilleure. Donc, nous sommes là, nous sommes un organisme de la communauté au service de la communauté. Donc, écoutez, comme on dit en créole, mais ensemble, chat et palou.
Alors, Madame Marie-Suzy Casséus, gestionnaire du programme Option Protection, vous avez la lourde responsabilité de clôturer.
Effectivement, après tout ce que viennent de dire mes collègues, écoutez, tout ce que je veux rajouter, c'est que on sait que pour notre communauté, les enfants sont d'une importance extrême. Donc, nous aimons nos enfants, nous voulons qu'ils se développent bien. Donc, je voudrais tout simplement dire aux familles de ne pas hésiter à nous appeler, ne serait-ce que pour s'informer de nos services. Des fois, bon, on est pas, c'est pas trop clair, on comprend, mais de prendre la peine d'appeler au BCHM, ça va nous faire plaisir de les accompagner, peu importe leurs difficultés. Puis, du moins, si ce n'est pas un service que le BCHM peut offrir, on va les référer ailleurs. Donc, tout simplement, on va les accompagner, on va prendre soin d'eux. Donc, je venais de leur dire que nos intervenants sont accueillants, sont à l'écoute de leurs besoins, ils sont patients, vraiment là pour soutenir nos familles. Donc, je les encourage fortement à nous contacter. Et pour qu'on puisse travailler et faire un petit bout de chemin ensemble.
Alors, on va juste...
Là, je vais tout simplement rappeler le numéro de téléphone.
C'est ce que j'allais vous demander aussi.
Je suis parfait. Donc, c'est le 554-725-9508, poste 301, ou par courriel, option protection à commercial.bchm.ca.
Alors, ça a été un agréable plaisir de vous recevoir à l'émission. Je vous souhaite la meilleure des chances. Et on se reparlera une autre fois. Le micro est ouvert pour vous.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Oui, à très bientôt.
Alors, et nous allons faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après.
Papa nous conseille, vous êtes papillon. Papa nous conseille. C'est pas bien.
De recevoir une habituée de l'émission Samedi Midi Inter, une personne très engagée, tant au niveau communautaire et politique, très bonne formation. Elle a eu la chance d'avoir deux grands-parents, mère et père. Il s'agit de Madame Dominique Anglade, l'actuel chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec, à qui je salue. Bonjour, Madame Anglade, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission samedi midi inter.
Bonjour, Raymond, très content d'être avec vous.
Très content et ça nous fait plaisir également. Dominique Anglade, ce Québec qui m'habite. Dominique Anglade, avec la collaboration de Marie Sterlin, préface Régine Chassagne, une de vos amies de longue date également.
Exactement, c'est connu il y a longtemps, nos parents étaient amis.
En effet. Alors, ma mère me rappelait fréquemment, probablement pour que je n'oublie pas, le sort des plus vulnérables de son côté. Mon père m'a toujours dit que je pouvais voir aussi grand que je le voulais et avoir un destin à la mesure de mes rêves. Je sais que c'est entre ces deux visions que j'ai tracé ma voie. C'est très bien.
Ça reflète beaucoup, l'éducation que j'ai reçue, les valeurs qui m'ont été transmises par mes deux parents, tous les deux haïtiens, mais avec des perspectives aussi un peu différentes sur la vie. Et donc, j'ai pris un peu des deux, je pense, dans ma propre vie à moi et dans les valeurs qui m'ont transmises.
Je ne veux pas faire de répétition. J'ai bien connu votre père, un homme sensible, pour ne pas le répéter à maintes fois. Un des anciens fondateurs de l'Université du Québec à Montréal. Et il était également un défenseur de la diaspora haïtienne, Dominique.
Tout à fait. Ça, on en a beaucoup entendu parler à la maison. Quand Duvalier est parti en 86, il a même fondé le mouvement haïtien Solidarité, le MAS. Il a beaucoup plaidé pour le 10e département qui se trouvait être 9 départements en Haïti, mais le 10e était celui de la diaspora. Donc, c'était une cause qui lui était extrêmement chère. On disait, en fait, il y a autant d'Haïtiens à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut qu'ils puissent avoir leur voix également, ceux qui sont à l'extérieur.
Ce qui était plus intéressant, il était devant la face de son père, qui était un des présidents de l'Assemblée constituante à l'époque.
Oui, parce que mon père a fait de la politique, mon grand-père a fait de la politique. Et donc, c'est quand même un beau moment que de pouvoir prendre la parole devant ton père qui lui est un élu. Alors, ça a été un moment qui l'a certainement beaucoup marqué.
Alors, quand je l'ai fait écouter sa plaidoirie devant l'Assemblée constituante, en studio de CKUT, en chair et en os. C'était par téléphone. Il a pleuré en studio ce jour-là.
Ben oui, il j'étais pas là, alors vous me racontez, mais j'ai pas de difficulté à l'imaginer parce que mon père était une personne sensible, sur personnalité, évidemment, mais sensible aussi, sensible aux autres, à sa famille. Donc, je n'ai pas de difficulté à voir qu'il pouvait s'émouvoir devant un rappel que vous lui faisiez à l'époque.
Très important de souligner, vous avez eu un père, un grand intellectuel, un homme très sensible, et vous avez une mère également qui était proche des femmes.
Oui, alors ma mère, une des causes qu'elle a portées toute sa vie, c'est la cause des femmes. Une féministe engagée qui a su s'impliquer dans la communauté, qui a su militer pour le droit des femmes. Une question qui l'a interpellée toute sa vie, sur laquelle d'ailleurs sa thèse de doctorat porte sur le travail des femmes, comment les hommes deviennent riches. C'était le titre de sa thèse de doctorat, mais c'est surtout de montrer la place des femmes dans l'économie, surtout en Haïti où 70% des chefs de famille sont des femmes et le travail qu'elles effectuent, qui est le travail domestique qui n'est pas rémunéré, a permet à l'économie de rouler. Et ça, évidemment, ce travail-là a longtemps été invisible, il est encore aujourd'hui. Mais mettre de l'avant cette perspective-là, ça l'a animé pratiquement toute sa vie.
Et quand on perd, en fait, une mère, un père, il y a des moments de rappel là, qui vous touchent et ça va rester pour longtemps.
Ah ben c'est sûr. Il y a des moments qui arrivent, qui se produisent, il y a des choses qu'ils partagent avec nous, puis tu emportes ça dans ton petit baluchon. Puis même s'ils ne sont plus avec nous aujourd'hui, ils sont quand même présents dans toutes les valeurs, les idées qu'ils ont transmises. À moi, évidemment, à ma sœur, mais également à tous ceux, parce qu'ils ont été des enseignants, ils ont été tous deux des enseignants. Donc, leur enseignement aussi vit à travers ceux et celles qu'ils ont côtoyés.
Quand on voit votre performance à l'Assemblée nationale, et on voit que l'apprentissage avait commencé depuis l'école polytechnique, où vous étiez présidente de l'association étudiante à l'École polytechnique de Montréal.
Oui, alors toute ma vie, j'ai été quand même assez impliquée. Et quand j'ai été à Polytechnique en troisième année, donc j'étais présidente de l'association, parce que les débats m'intéressaient déjà à l'époque. Je trouvais qu'il fallait avoir plus de moyens pour les étudiants. Il y avait les frais de scolarité qui étaient en jeu, mais aussi l'implication sociale. J'ai beaucoup, beaucoup cru, et jusqu'à présent, c'est quelque chose qui m'est cher, la nécessité de s'impliquer, de faire des compétitions d'ingénierie, de s'impliquer dans les différents comités, de prendre la parole dans le journal d'étudiants, de construire des autos, peu importe, s'impliquer dans les différents comités, je pense que c'était quelque chose de très important, et c'est ce que je me suis appelée à faire également quand j'étais à Polytechnique.
Et on voit votre sensibilité, surtout à cette période, même si on sort un petit peu de votre livre, votre engagement à l'Assemblée nationale et à la façon que la question de pandémie est traitée à la Chambre, à l'Assemblée nationale.
La pandémie a tellement de conséquences sur les gens, énormément de conséquences dans leur vie au quotidien, parce que, bon, il y a des enfants qui n'ont pas été à l'école, qui ont dû rester et qui ont plus de difficultés d'apprentissage. Il y a des enjeux de santé mentale, il y a l'isolement de nos aînés, le fait qu'ils soient seuls, qu'ils ne voient personne, la solitude, il y a ceux qui ont perdu quelqu'un. Oui, avec la COVID, mais même sans la COVID, ces personnes sont décédées, on n'a pas pu tenir des funérailles qu'on aurait dû en tenir. Il y a le problème de violence conjugale. Donc, les enjeux sont démultipliés. Et donc, c'est ces éléments-là qui sont très humains, qu'il faut aussi ramener à l'Assemblée nationale, parce qu'au-delà des décisions que l'on prend, c'est les conséquences réelles que vivent les gens. La situation du logement qui devient de plus en plus difficile. La situation de personnes qui travaillent, qui ont des statuts qui sont précaires. Il y a beaucoup d'enjeux sociaux.
Et c'est quand même important de souligner, quand on a une famille unie, vous avez un cher mari, vos enfants, et ils vous encouragent tout le temps dans votre travail, qui n'est pas toujours facile.
Alors oui, ils m'encouragent, on se soutient, on s'aime beaucoup surtout. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est de m'assurer que chaque personne au sein de la famille puisse trouver son espace, puisse trouver son... puisse faire les choses qu'elle aime. C'est vraiment la manière dont j'essaie de me gouverner à l'intérieur de la bulle familiale, que tout le monde ait son propre, sa propre capacité d'être, finalement.
Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans parler d'une initiative que vous avez mise sur pied depuis des années, c'est Camper. Je me rappelle, j'ai eu l'occasion de participer avec Martine Chassagne à des activités de camper, même là que vous n'êtes pas présente, mais camper existe toujours et vous faites de bonnes choses avec ce mouvement que vous avez mis sur pied pour les femmes en Haïti.
Oui, Campé, c'est une organisation qui a plus de 10 ans maintenant. Une organisation donc qui accompagne les familles vulnérables en Haïti, qui bâtit des communautés. Des communautés avec souvent les femmes à leur tête, d'ailleurs. On est dans le plateau central, Tomon, Baïtourib. Et l'idée là-dedans, c'est de se dire, donc, camper, se tenir debout. Camper, on l'écrit comme on l'écrit en créole, donc K-A-N-T-E. Et c'est le message que, en se tenant ensemble, en se tenant debout, en étant fiers, on est capable d'accomplir beaucoup de choses et c'est d'être impliqué avec des gens de la communauté. Donc, ce n'est pas des gens de l'extérieur qui débattent et qui expliquent à la communauté comment les choses devraient se faire, mais c'est véritablement un accompagnement des familles, une autonomie que l'on crée et c'est ça le mouvement Campé.
Très important, je profite de l'occasion pour saluer Martine Saint-Victor également, qui est une de nos collaboratrices à l'émission Samedi Midi Inter. Et le livre.
Martine, c'est une personne formidable.
Ah, moi, je l'aime beaucoup. C'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur.
Formidable.
Alors, et le livre est en vente dans la librairie. Est-ce que vous voulez donner ou bien vous voulez que je fasse ce travail pour vous?
Ah, quelle librairie? Ben, toutes les librairies, que ce soit.
Alors, il y a Patricia, il y a Patricia Huot, que les gens peuvent contacter. C'est votre contact de presse?
Oui, avec ma maison d'édition Libre Expression.
D'accord. Okay.
Mais pour se procurer le livre dans n'importe quelle librairie, ce soit un libraire indépendant, ça peut être, comme je disais, en Chambord, Renaud-Bray, etc. Vous pouvez le commander en ligne, tout simplement. Ça aussi, ça fonctionne. Donc, les gens peuvent se le procurer facilement. Et puis, il y a des gens qui m'envoient des commentaires. C'est très sympathique. Qui l'ont lu, qui m'envoient des commentaires. Et ça, c'est également très apprécié. Mais si les gens vont sur dominique.plq.org, quand ils vont sur ce site-là, il y a tous les endroits où vous pouvez commander le livre. Donc,
Je profite de l'occasion pour saluer votre caucus, mais avant de partir, et Mme Anglade, comme chef de l'opposition officielle, je sais que l'Assemblée nationale a déjà adopté des résolutions et face à la tragédie de la première République noire libre, mais il reste le fédéral à prendre sa décision. Parce que le corps groupe joue un rôle très important. Et ce qui arrive maintenant, c'est vraiment la désolation. Même moi, comme un combattant, je ne dépose pas les armes.
Mon père avait cette expression qui disait « Il y a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. » La situation est extrêmement difficile en Haïti, extrêmement pénible, avec des droits qui sont bafoués avec des arrestations qui ne devraient pas y avoir, avec une insécurité énorme. C'est la raison pour laquelle on a amené une motion à l'Assemblée nationale comme formation politique. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est important que le Québec se positionne là-dessus. Cette motion a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des partis. Mais il reste encore du chemin à faire pour dénoncer ce qui se passe. C'est trouver des solutions pacifiques. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, parce que je suis en communication avec des gens qui sont sur le terrain de manière permanente. C'est sûr que encore une fois, c'est une situation extrêmement difficile pour tout le monde.
On est samedi aujourd'hui, Mme Anglade, et je sais que votre petite fille en fêtait son anniversaire cette semaine.
Il y en a un qui a fêté son anniversaire récemment. Il y en a trois enfants à la maison. Mais ils ont toujours plein d'activités par ailleurs. Mais c'est mon fils qui dit récemment que c'était son anniversaire.
Alors, je lui souhaite un joyeux anniversaire.
Mais merci beaucoup.
Et c'est sur cette note que je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Laurent. Au plaisir de vous voir.
Toujours. C'était Mme Dominique Anglade avec son nouveau livre, Ce Québec qui m'habite, la chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. du Québec. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après. Avec nous, John Miller Beauvoir et John Nabjou. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour Raymond, je salue tous les amis, collaborateurs, collaboratrices et émissions. Hein? Et je salue tous les fidèles auditeurs et auditrices qui n'ont jamais raté l'occasion pour participer avec nous.
John, on a regardé la situation du pays d'Haïti à traverser, nous dit c'est du jamais vu, même pendant la dictature de François Père et Jean-Claude Fils. Et c'est quand même une tristesse dans la situation déplorable que le pays a éprouvé, kidnapping, assassinat. Sans arrêt.
En effet, je pense que il y a des historiographes qui peuvent garder des tranches d'histoire ça et font garder perspective là par rapport avec depuis 1804. Et j'en dis là, moi-même personnellement, je pense que c'est un chapitre qui est beaucoup plus douloureux dans l'histoire et pays ça. Et pour deux raisons fondamentales, c'est que parfois, on pense qu'on touche le fond, mais bon, comme tout le monde dit, l'abîme n'a pas de fond, donc ouais, c'est qu'on a continué à plonger. Et c'est chaque jour, il y a une crise remplacée en l'autre. C'est chaque jour, il y a l'horreur du kidnapping qui vient sous de nouveaux visages, sous de nouveaux jours, qui fait que c'est des bagailles impensables, c'est des bagailles spectaculaires dans le mauvais sens. Et une chose qui m'a marqué, moi, Raymond, pendant la période de ça, c'est ça m'a capable de désacralisation d'un ensemble d'institutions, d'un ensemble de valeurs, d'un ensemble de symboles. Vous comprenez? Donc, quelle que soit la religion, ou bien si vous n'avez pas de religion du tout en Haïti, mettez un minimum de respect pour l'Église, par exemple. Il y a respect pour temple vaudou, il y a respect pour monde qui n'a franc-maçonnerie. Donc, on ne doit pas d'accord avec ça pour nous comme vision, comme valeur, comme foi, comme croyance. Mais on peut toujours connaître un minimum de respect pour lieu sacré ça yo, pour institution ça yo. Et ça va garder en Haïti aujourd'hui parce que l'État lui-même est désacralisé. Ça veut dire que l'État haïtien est perdu, il est vidé de substance li, parce que le monde qui a dirigé n'a pas de prestige, n'a pas de hauteur, n'a pas de dimension, n'a pas de qualification. Donc, il y a tout le bagage dans le pays qui a perdu valeur. Et c'est une raison pour faire au capable que bandits entrés, au vu et au su de tout le monde, ils ont kidnappé pasteur qui a prêché, ils ont pris un prêtre, ils sont fait messe, et ils ont entré dans l'église Saint-Pierre tout. Ils ont dispersé foule. Et je pense que c'est des tranches d'histoire qui est non seulement déplorable, mais ils ont vraiment attristé nous comme monde d'abord et comme citoyens haïtiens.
Et faut que moi dire, et jeudi de cette semaine, le monde a des mobilisations qui gagnent à l'intérieur du pays. Le nous garder pour nous voir les commerces qui fermaient. Et j'ai eu quand même la chance de parler avec un ami, un collaborateur, en jeudi très tôt. Il dit m'sal ouais dans la capitale là, les gars espoir. Et puis nous dit que Haïti pas mourir.
Effectivement, bon, ça me capable de dire c'est que l'économie formelle déjà elle pas fonctionner. Et m'baron économiste, c'est pas expertise moi, mais nous tout connaît que pour un secteur économique il fonctionner, il faut qu'on minimum de sécurité, il faut qu'on minimum de sérénité, il faut qu'on minimum de stabilité. Donc dans ça nous gain Haïti là, seule l'économie qui a fonctionné, c'est l'économie du kidnapping. Donc un monde qui a fait l'argent dans bonnes conditions, un monde qui a fait l'argent de manière légale, ou bien intérêt pour boycotter ce qui passe en Haïti, hein, pour fermer. Et d'accord que son geste symbolique qui est extrêmement important, pour gagner pile secteur dans la vie nationale là, qui campe et travaille jeudi passé, hein, pour gagner l'Église catholique. D'ailleurs, on connaît plus dans pile les prêtres qui, jusqu'à présent,
sont en otage.
On gagnait des Français, on gagnait Timoun, on gagnait femmes, on gagnait des mouns qui ont assassiné. Donc, moi-même, quand je parle avec vous, je m'ai perdu en 30 mois. Et c'est fort probable que pas un pile de monde dans la famille qui est capable d'assister aux funérailles. Donc, par rapport à la situation sécuritaire qui vient d'un pays. Donc, pour nous dire que, le niveau pays là, ce n'est pas un jour seulement pour le secteur ça fermé. Ben, c'est qu'il est supposé fermer jusqu'à ce que nous chambardions l'ordre actuel, jusqu'à ce que nous chambardions le statut pour ça, pour vraiment bah, le pays là, on souffre pour que la vie a des chances pour le reprendre. Parce que Haïti, je dis, là, c'est la vallée de la mort. Okay? C'est un pays qui est livré totalement à gang, à bandits, et ceci à tous les niveaux.
Et moi-même, m'a toujours dit que le Canada a une responsabilité, ainsi que mon ami Emmanuel Dubourg, qui est au fédéral, parce que le Canada fait partie du corps groupe. Et le Noué en Haïti, qui est Scapmené, c'est le corps groupe, qui vient les États-Unis, le Canada, la France et l'Union européenne. Et moi-même, moi, dit que nous pas oublié. Nous pas oublié. Et nous espérons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Monsieur Justin Trudeau, mettez pantalon serré et prend une décision pour pas passer mal devant le peuple haïtien et la communauté haïtienne du Canada.
Bon, moi-même, sincèrement, m'a dit que depuis quelques semaines, moi, gagné un mépris pour l'administration Trudeau. Il y a même niveau agent où méprisé le peuple haïtien. Il y a méprisé, pour même son bagage extraordinaire, pour toute violation de la loi, ça a fait. Pour gagner tout haïtien, ça, tout le monde d'origine haïtienne, ça, qui a fait vivre le Québec et le Canada. pour gagner l'administration, ça n'a pas levé le petit doigt.
Alors, John, moi-même, moi capable de rendre le fédéral responsable dans ce qui a passé, parce que là, nous connaissons que le Canada fait partie du corps groupe. Nous n'avons pas rien personnel avec le très honorable à mon premier ministre Justin Trudeau et mon cher ami compatriote Emmanuel Dubourg. C'est une question de pays et qu'a parlé. Et non pas de partisanerie politique. Alors là, nous connaissons que le Canada est parti du corps groupe, comme l'Union européenne, la France et les États-Unis. Eh bien, M. Trudeau a une grande responsabilité face à la communauté haïtienne du Canada.
Oui, en fait, c'est le silence de M. Trudeau qui est éloquent, parce que qu'on est Canada, moi-même, qu'on aime travailler en pile dans un pile pays en Afrique notamment, en Amérique latine, hein? Et qu'on sorte de réputation du Canada comme un pays qui est sensible par rapport aux questions liées aux droits humains. Donc, il est vraiment étonnant, le seul pays qui partage la langue francophone avec le Canada, dans l'Amérique là. Et il y a tout bagage qui est en train de passer, en termes de violation systématique des droits humains, un pouvoir qui est de plus en plus autoritaire. Et ouais que Canada, on va dire, il est terrible, une sorte de silence et complice, et c'est du mépris à la limite. Je pense que ça a vraiment les révolté, vraiment déçu de l'attitude du Canada par rapport à la crise. Et en Haïti, un pile acteur pensait que le Canada est toujours marché dans la logique États-Unis. Ça veut dire que si États-Unis prend position, le Canada suit à la lettre. Et je pense que c'est dommage parce que ce faisant, le Canada est en train de ternir sa réputation et même la mettre à dos des gens de la diaspora qui quand même contribue en pile pour faire Canada et Québec ça y est aujourd'hui. Donc moi c'est que Canada sont grosse déception par rapport à la situation haïtienne là. Et nous capable dire et semaine ça ont certaines évolutions de la part du corps groupe notamment de madame Lalime qui représente qui a géré l'INU en Haïti, Bureau des Nations Unies. Hein. Et lui fait connaître très clairement que lui voit que conditions n'ont pas réunies et pour faire référendum. Alors, on connaît que pouvoir Jovenel Moïse, là, c'est deux paroles d'y parler.
Ouais.
Et c'est référendum, élection, malgré que et tout le monde voit pas de quelles conditions qui réunies, conditions politiques pas réunies, conditions techniques pas réunies pour gagner un référendum, encore moins pour gagner une élection là et. Dans l'année 2021.
Alors, quand la vice-présidente du pays parle, c'est quand même quelque chose. Parce que Mme Lalime, c'est la vice-présidente et la présidente, c'est l'ambassadrice des États-Unis.
Mme Lalime, bon, en fait, c'est Mme Lalime, c'est représentant BINU et Mme Sisson, c'est ambassadrice des États-Unis. Mais en tout cas, il y a une bonne parole l'autre. Et moi, je pense que nous devons accentuer la pression yo, parce que l'évolution, ça a une position. Ce n'est pas un cadeau. C'est parce que toute pression que nous avons mis au niveau de l'opinion publique nationale et internationale qui fait qu'on est capable d'avancer dans le bon sens. Donc, ça, c'est son actualité que nous avons.
C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous à l'émission. Et John, on vous dit merci et bonne écoute.
Merci beaucoup et je salue encore une fois toute auditrice et tout auditeur.
John Miller Beauvoir est un passe-partout. Il connaît très bien l'Afrique hein, et tant d'autres pays et un pétro-challenger également. N'a pas pause et puis n'a pas
Dans mes sons, Mes amis, je viens de prendre mon vaccin contre la COVID-19. J'en ai discuté avec des leaders religieux, yo di mwen, yap mache avèm. Si nous voulons retourner à une vie normale, c'est pour nous prendre vaccin. Vaccin sa yo sécuritaire. Yap protéger vie nous avec toute famille nous. Vaccin sa yo gratis. Tant pri, relais pour prendre rendez-vous dans 514-644-4545. Ici, Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. À vers ma planche.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles dans les résidences et cours privées sont interdits. Les déplacements entre régions sont à éviter et les déplacements vers les zones jaunes sont interdits. De plus, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les mesures en place. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
Maintenant que nous avons dit au revoir à l'année 2020, recevons à bras ouverts l'année 2021.
Cette année, Digicel International vous donne plus d'avantages et plus de primes à gagner. Envoyez 20$ de recharge en Haïti et vous avez la chance de gagner 21$ sur une carte Digicel Pay. Achetez 20$, gagnez 21$. Avec des milliers de gagnants en 2020, maintenant c'est à votre tour de gagner votre part de primes. Visitez digicelinternational.com, téléchargez l'application Digicel International ou rendez-vous chez un agent pour envoyer une recharge et gagner. Termes et conditions applicables. Cette promotion prend fin le 18 avril.
La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
J'ai le grand plaisir de recevoir M. Extra Junior Laguerre, avocat de formation, bâtonnier élu du barreau de Montréal pour 2021-2022, et son mandat va débuter le 5 mai prochain. Maître Laguerre, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois à l'émission Samedi Midi Inter. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue.
Bonjour, Monsieur Larrain. Ça fait grand plaisir d'être reçu par votre émission. Merci beaucoup de l'invitation. C'est très, très apprécié. Donc, merci beaucoup.
On est toujours à la recherche des gens comme vous. Et je me rappelle, il y a un ami de longue date qui nous écoute actuellement, qui m'avait donné un petit nom de chasseur de tête. Et c'est juste pour montrer à la communauté haïtienne, il y a des gens qui ne niaisent pas, mais l'éducation, c'est important pour eux et pour leur famille.
Je suis d'accord avec vous. Effectivement, ma famille est toujours privilégiée. Mais comme toutes les familles haïtiennes, bien entendu, sont toujours bien privilégiées l'éducation et pousser leurs enfants à étudier très fort. Donc, je suis bien heureux d'avoir suivi les conseils de mes parents et de pouvoir maintenant avoir pris une bonne éducation et pouvoir maintenant occuper le poste de barreau de Montréal, de bâtonnier du barreau de Montréal le 5 mai prochain. Là.
Alors, si on parle de vous, vous êtes né en Haïti et vous êtes rentré ici très jeune et vous avez, passé une partie de votre temps à Granby, je crois.
Oui, bien entendu. Je suis arrivé en Haïti en 78. Je suis arrivé ici vers l'âge de 10 ans. Suite au décès de mon père, donc c'est ma tante Jacqueline qui habitait à Granby à l'époque qui a pris en charge mon éducation quand je suis arrivé ici. Et c'est elle qui m'a élevé. Donc, j'ai été élevé dans la ville de Granby. J'ai fait mon primaire, mon secondaire, mon cégep à Granby. C'est une très belle ville que j'ai beaucoup d'affection pour la ville de Granby. Là.
Alors, et parlons de votre expérience, parce que vous êtes un grand modèle, comme tant d'autres. Et ce n'est pas pour rien, quand on m'a parlé de vous, je me suis dit, vous allez passer à cette émission, une émission d'éducation, de la culture et de l'histoire également. Et en tant que modèle, c'est quand même important pour voir comment que les parents de ces jeunes-là ont pris à cœur leur éducation et c'est ce qui vous a rendu là aujourd'hui.
Bien certainement, effectivement. Donc, comme vous savez, les familles haïtiennes portent beaucoup d'attention à ça et encouragent leurs enfants à étudier, donc parce que souvent, on est des gens qui arrivent ici suite à l'immigration. Donc, la seule façon de s'en sortir sur les parents, c'est l'éducation. Donc, j'en suis la preuve, effectivement. Donc, c'est l'éducation qui m'a permis de pouvoir gravir les échelons, de pouvoir étudier à l'Université Laval, où j'ai fait mon baccalauréat en droit. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Je suis venu par la suite travailler à Montréal, à la Cour du Québec, comme clerc à la Cour, puis j'ai travaillé à Revenu Québec. Ainsi de suite, je me suis impliqué pour me rendre où je suis aujourd'hui. Donc, c'est grâce à tout cela. Donc, sans l'éducation, sans le fait que mes parents m'ont toujours encouragé, malgré le fait que j'ai pas toujours été très banal quand j'étais plus jeune, mais quand même, m'ont toujours encouragé. Donc, ça fait en sorte que j'ai pu aujourd'hui être rendu où je suis maintenant. Là. Donc, j'en dois une très, très fière chandelle.
Alors, ce qui est important à souligner, vous avez effectué vos débuts professionnels comme recherchiste à la Cour du Québec et ensuite poursuivi votre carrière en travaillant à l'Agence du revenu du Québec pendant près de 3 ans. Et en mai 2011, l'année où il y a eu quand même le grand événement à World Trade Center, hein?
Oui.
Vous avez commencé à pratiquer dans votre cabinet et la guerre fiscaliste en Inc. Alors, oui, vous n'avez pas chômé.
Je pense que je suis quelqu'un de motivé. Écoutez, moi, quand je suis arrivé à Montréal, je connaissais personne, donc je me suis impliqué rapidement et j'ai travaillé à la Cour du Québec, comme vous avez dit, à la Cour du Québec, puis j'ai toujours voulu partir de mon propre cabinet. Et effectivement, après un séjour à la Cour du Québec, près de 3 ans, j'ai parti de mon cabinet à la guerre fiscaliste. Donc, je suis avocat fiscaliste, je fais du droit fiscal, donc j'ai des gens qui ont des problèmes avec les autorités fiscales. Et j'ai parti de mon cabinet où je travaille encore aujourd'hui, là.
Alors, j'imagine que probablement vous allez avoir des clients. Et si ils ont des problèmes, alors c'est une petite publicité gratuite.
Merci beaucoup, mais je ne leur souhaite pas, mais effectivement, parce qu'on n'est jamais. Pour avoir des clients, ils ne sont jamais contents de faire face avec Revenu Québec ou Revenu Canada. Mais bien entendu, je peux aider les gens qui ont ce type de problème-là. C'est mon travail.
Alors, et comme je le dis, vous êtes un grand modèle. Et c'est pour cette raison que je dois remercier mon ami Ruth Mibel. Quand il m'a parlé de vous, je lui ai dit, vous allez passer en première, le scoop. C'est le CNN de la communauté haïtienne qui va l'avoir.
Ben, sachez aussi que je remercie Ruth parce que sachez que Ruth m'a téléphoné, je ne sais pas, 4 ou 5 fois pour s'assurer que cette entrevue-là ait lieu. Je dois une guerre solaire à Ruth également qui a travaillé fort. Puis écoutez, moi, je suis très heureux que. Moi, avant tout, j'ai fait ça parce que j'adore m'impliquer. Avant tout, c'est ça qui m'anime. Je suis très heureux de voir que.